conversation urbaine et architecturale, Myriam Schwartz, architecte et urbaniste.
Radio-imo.fr.
Une émission présentée par Cardam, l'engagement d'un groupe innovant, un savoir-faire qui allie conseil, architecture et aménagement.
Chers amis, nous sommes au volet 2. Volet 2, je reçois Alexandre Bouton, créateur et directeur et etc. Animateur, on va dire, mais pas au sens vulgaire du terme, bien évidemment, de l'atelier d'urbanisme et d'architecture UrbanAct. Bonjour Alexandre.
Bonjour Myriam.
Alors, ravi de vous recevoir. Juste pour ceux qui ont manqué le 1, vous pouvez bien évidemment nous écouter en podcast sur Radio Imo, comme d'habitude, et pouvoir réécouter l'interview d'Alexandre. Je voulais parler aujourd'hui des projets rentrés dans le concret. Est-ce que vous pouvez nous donner un petit aperçu des différents projets urbains sur lesquels vous êtes à même aujourd'hui, vous travaillez aujourd'hui et vous développez un peu l'agence,
hein ? Oui, avec plaisir. On travaille aujourd'hui sur différentes échelles d'espace, de temps et d'acteurs. À la fois sur des projets de territoire, comme par exemple, là, on a rendu une étude pour Pleine Commune sur la revalorisation des berges de Seine, la manière avec laquelle, en fait, le territoire a peu à peu tourné le dos à ce patrimoine fluvial unique, qui représente un enjeu écologique majeur par rapport justement aux îlots de chaleur et à la capacité de la Seine à irriguer le territoire en termes de fraîcheur. On voit qu'aujourd'hui, la fraîcheur qui vient de ce potentiel hydraulique s'arrête à peu près à 10 mètres en fait, autour de la Seine, parce que les tissus urbains n'ont pas du tout été pensés en porosité.
Ils vont l'être un petit peu dans le cadre des Jeux Olympiques et de certains aménagements
exactement.
Le long des berges.
Voilà, exactement. C'est une étude qu'on a fait dans le cadre et le suivi des JO, justement. Et donc, ça, c'est par exemple un des types de projets sur lesquels on travaille, les grands projets de territoire, projets d'extension de lignes de métro, de voir comment ces lignes de métro viennent, à un moment donné, changer, transformer les territoires, en tous les cas, dans l'idée d'anticiper ces transformations, tant en termes social, économique, que par rapport aux mutations foncières. On travaille beaucoup sur des projets de rénovation urbaine assez complexes, donc dans les quartiers nord de Marseille. On a deux gros projets, Frévalon, La Rose, Petit Séminaire, sur 1500 hectares.
Alors aujourd'hui, petite question, comment on fait du renouvellement urbain et de la restructuration type, entre guillemets, en rue, puisque ce n'est pas toujours des dossiers en rue, dans normes de Marseille aujourd'hui? Alors, parce que ces rénovations urbaines ont commencé il y a à peu près 30 ans maintenant.
Oui.
Comment les fait-on 30 ans après?
Donc aujourd'hui, on est vraiment à Marseille. Il y a une entité qui s'appelle Marseille Rénovation Urbaine, donc qui a été construite justement dans l'idée de prendre en main des projets complexes pour penser les choses en termes de transformation partagée entre les bailleurs, la ville, l'État.
Est-ce qu'il y a aujourd'hui plus de dialogue entre les intervenants?
En tous les cas, c'est clair que dans les projets dans lesquels on s'est engagé, c'est ce qui se passe. C'est compliqué, mais c'est ce qu'on fait depuis plusieurs années. On part vraiment du terrain, des terrains qui sont pas toujours évidents, parce que on connaît Marseille avec des problématiques de drogue, de tensions, de violence dans certains quartiers, mais en même temps
sans stigmatiser,
mais en même temps des vraies solidarités. À la fois parfois au niveau de communautés locales, mais aussi, je dirais, de manière très transversale. On a vu que dans certaines parties de quartier, à l'échelle d'une cage d'escalier, il va y avoir une vraie solidarité entre des gens qui ont du mal à écrire, des gens qui servent de scribe, des gens qui emmènent les enfants à l'école, des gens qui font à manger. Et donc ça peut paraître un peu anecdotique, mais en fait, c'est un germe de mise en commun à l'échelle d'un îlot sur lequel nous, on aime s'appuyer pour construire le projet, partir de la parole des habitants.
Mais alors du coup, c'est un temps infini. Comment on arrive à réduire une telle mission et faire en sorte de passer de la parole, qui est importante, à exécution, je dirais, des ouvrages, des espaces publics,
hein. En fait, pour moi, il y a deux niveaux. Il y a le bottom-up et le top-down qui doivent se croiser. Et il faut partir de ces deux dynamiques. D'un côté, on part de la vision centrale décentralisée, des services, de l'agglomération, de la ville, qui ont aussi du mal à se parler. Donc là, il y a vraiment des ateliers d'échange à faire et à construire pour partir du hard. Et puis après, il y a toute la question un peu plus fragile de l'altérité des échanges qui prennent forme sur un territoire, les interactions socio-spatiales. Et donc là, on va travailler avec les acteurs locaux. En fait, on s'en rend pas compte, mais il y a des tissus associatifs très structurés.
De discours, les interactions socio-spatiales, qu'est-ce que ça veut dire quand on a, on va dire, 70% des jeunes qui sont au chômage sur des territoires tels que ceux-là? Comment se pose la question?
Alors la question, elle se pose en termes de désenclavement, pas seulement spatial, justement en termes de désenclavement presque économique, social, presque psychique à un moment donné.
Vous avez vraiment le sentiment que les urbanistes peuvent apporter quelque chose au fait de trouver du travail à ces populations jeunes qui n'en ont pas?
En fait, nous, on n'est clairement pas la seule solution, je dirais, à cela. Maintenant, on peut participer, à notre juste mesure, à ce désenclavement. Je le vois tous les jours, quand on voit, par exemple, le périphérique marseillais qui vient d'être construit, et la manière avec laquelle, à un moment donné, il irrigue ou pas les quartiers qu'il vient desservir, c'est quelque chose d'extrêmement intéressant. Aujourd'hui, on a une sorte d'infrastructure métropolitaine qui vient se poser sur des territoires, un peu sans attention particulière à ces territoires.
C'est-à-dire qu'on continue à faire ça alors qu'on a, on l'a fait dans les années 70, si on essaye de les détruire autour de Paris, on continue à les faire à Marseille, c'est intéressant.
On continue, mais en même temps, tout l'intérêt, c'est de voir. Alors, on continue à les faire à Marseille, disons qu'il y a une nécessité d'avoir des grands axes de flux qui permettent de desservir la métropole. Mmh. Après, l'idée, c'est de voir comment justement on les fait atterrir localement pour que ça devienne de véritables leviers. Le lien, c'est vraiment le lien entre le transport en commun, qui est en pleine réflexion à Marseille, des lieux d'échange, de nœuds qui croisent justement le rapport à la voiture, le rapport au bus, le rapport au métro. Et c'est cette plateforme d'échange-là qu'il faut structurer en lien avec ces quartiers pour en faire de véritables lieux d'intensité, d'échange, et pas des lieux de relégation qui sont à côté de ces flux, mais pas au cœur de ces flux. Et c'est vraiment ce sur quoi on travaille avec la métropole et les bailleurs.
On aura peut-être un autre sujet parce que je vais animer à partir de la rentrée, on en a un petit peu discuté, je dirais avec les dirigeants de Radio Immo et le rédacteur en chef, un certain nombre de tables rondes sur lesquelles on pourra développer ce genre avec de projet. Plaisir. Aujourd'hui, le temps nous est compté. Je voulais parler aussi des projets, je dirais, à une dimension un petit peu autre, tels que les îlots, les macro-lots, les îlots complexes, les grands projets sur lequel vous travaillez aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous en parler?
Donc, on a des projets qui sont à l'interface entre les grandes infrastructures métropolitaines et puis les quartiers, les villes, les espaces publics locaux, où il y a une articulation qui se joue aujourd'hui. Et donc, par exemple, sur le pont de Bondy sur lequel on travaille et sur lequel vous travaillez aussi en tant qu'architecte urbaniste, donc où on a la chance j'ai la chance de pouvoir collaborer avec vous. Donc là, il y a vraiment une interface qui est pas évidente. On le voit tous les jours. D'ailleurs, quand on est sur ce projet, il y a une complexité d'acteurs. Il y a une vraie complexité en termes de gestion et d'articulation des temps entre le court terme, les choses qui doivent se faire tout de suite, et le long terme, la vision prospective qu'on donne, qui doit
surtout
pouvoir...
Surtout pour le métro, par exemple, la ligne 15, le long terme est passé de 2024 à 2030 à 2034. Donc c'est vrai que dans ces cas-là, c'est un petit peu compliqué de s'insérer dans une temporalité fluctuante.
C'est sûr que quand une règle du jeu comme celle-là change, ça donne une refonte des dynamiques qui n'est pas évidente. Mais en même temps, on sent que quelque part le métro, il est engagé. On a des territoires comme le canal de l'Ourcq, le pont de Bondy, l'articulation entre les villes de Bobigny, Noisy-le-Sec et Bondy, qui est en pleine transformation. On hérite de ce tissu industriel aujourd'hui obsolète. obsolète. Il s'agit ici de reconstruire la ville du 21e siècle. Après, à l'articulation entre ces flux métropolitains et la vie locale, les espaces publics du quotidien, il y a la nécessité d'implanter de nouveaux programmes, de nouveaux équipements qui permettent d'articuler ces deux dimensions.
Alors, je suis désolée de vous couper la parole, parce qu'effectivement, je suis obligée de regarder l'heure. Mais alors, du coup, me vient quand même le sentiment et la perception que c'est de plus en plus difficile, mais c'est à vous de répondre, d'être urbaniste avec des visions de développement et une interface avec les politiques importantes, et puis architecte, c'est-à-dire de se coltiner à la matière et à un goût, entre guillemets, des services, des élus, des maîtres d'ouvrage, qui est oui, si, non, ça, etc. Donc, comment fait-on pour pouvoir, dans une même agence, englober les deux ?
En fait, il y a une question de synthèse qui n'est pas évidente, mais en même temps, qui doit pouvoir se faire à la fois dans la discussion, dans le compromis, et en même temps dans l'expertise, les connaissances que nous, en tant qu'architectes, on est les seuls à avoir quelque part. Ce qui nous différencie de tous les autres métiers aujourd'hui, et même si le BIM est censé révolutionner la profession, c'est notre capacité à tenir un crayon, à dessiner un trait qui différencie deux mondes. Ça, quelque part, la justesse de ce trait, l'économie qui est derrière.
Vous croyez que le BIM ne va pas nous remplacer ?
Il nous remplacera, je pense, sur le moyen. Il y a un risque, mais après, derrière le BIM, il y a une question, je dirais, de sensibilité, d'altérité, qui risque de passer à la trappe. Et ça, ce serait quand même un peu embêtant si le BIM se résume à une sorte de bibliothèque d'architecture et de façade qu'on colle sur des bâtiments pour trouver une solution architecturale adéquate à une culture locale, ça va être un peu triste.
Oui, je partage le sentiment et le propos, mais je ne suis pas sûre qu'aujourd'hui on ait encore tiré le bon fil et trouvé la bonne solution de la juste mesure entre la sensibilité et l'hyper-technologie ou high-tech du BIM.
C'est un combat.
Qu'on veut bien.
C'est un combat.
Partons à la guerre. Un petit point peut-être sur la transmission à l'agence, sur comment vous voyez l'évolution de l'agence dans les 20 prochaines années ?
Bien, par rapport à ce que vous disiez juste avant, sur votre question de savoir comment on arrive à gérer l'articulation entre ces mondes au sein d'une agence, ce qui est important, c'est que l'agence, moi, je la vois comme un lieu de passage, un lieu de formation, autant qu'un lieu d'expertise. Et donc, du coup, on a différents pôles, des gens qui sont plutôt spécialisés sur les dimensions territoriales, des gens qui sont plutôt spécialisés sur le projet urbain, et des gens vraiment spécialisés sur l'architecture, la matière, le détail, la mise en œuvre, l'exécution. Et c'est l'articulation entre ces trois mondes, l'échange, qui permet véritablement d'avancer. De manière très concrète, on a des urbanistes architectes, on a des architectes ingénieurs, on a déjà des gens, en fait, qui sont au croisement des mondes, de par leurs connaissances, de par leur formation, et c'est l'articulation entre ces différentes personnes, la manière de construire le projet, qui fait la spécificité d'une agence comme celle-là.
Merci Alexandre, on a regardé beaucoup de sujets. Je pense que nous nous retrouverons l'année prochaine, peut-être pour la première pierre de l'îlot complexe.
Avec plaisir.
Sur site. À bientôt chers auditeurs, et bonne journée très chaude et caniculaire. Attention, gardez-vous bien.
Conversation urbaine et architecturale, Myriam Schwartz, architecte et urbaniste.
Radio-imo.fr.
Une émission présentée par Cardam, l'engagement d'un groupe innovant, un savoir-faire qui allie conseil, architecture et aménagement.